La tombe du maudit. Le cutter, solidement affourché sur ses ancres à sa place habituelle au fond de l'anse de Primel, après avoir donné la permission de terre à une partie de ses hommes, prit toutes ses dispositions pour que rien ne souffrît dans le service qu'il voulait presque aussi sévère que sur un bâtiment de l'État, le capitaine, confiant le commandement à Jan Postek, se fit mettre à terre au plus près avec l'Antoc. Ils débarquèrent au milieu des roches couvertes de varech, qui se trouvent près de l'espèce d'isthme étroit placé entre la haute montagne qui rejoint le plateau élevé où se trouvent Plougasnou et la pointe de Primel. En se faisant déposer en cet endroit, le corsaire avait son idée qui était d'éviter, s'il le pouvait, toute rencontre importune. Avant la révélation étrange que venait de lui faire le maître d'équipage, il n'avait qu'un désir, courir le plus tôt possible à Plougasnou et retrouver Anne Guiznou. À présent, tous ses projets étaient bouleversés. Une telle angoisse étreignait son cœur qu'il n'aurait pu la dissimuler à celle qu'il aimait. Le doute dans lequel il se trouvait, les espérances qu'avaient fait naître les paroles entendues au moment même où il allait débarquer, les inquiétudes inexpliquées qui combattaient cet espoir indécis dans sa pensée, le poussaient à se délivrer avant tout de toutes ces incertitudes. Quand il saurait si oui ou non l'Antoc s'était trompé, quand il aurait vu la femme qui avait tenu ces étranges propos, alors seulement il pourrait revoir la jeune fille. La hâte de savoir le dévorait. Il avait dit au vieux marin « L'Antoc, tu vas venir avec moi. Tu vas me conduire chez cette Tinaïque Cornou dont tu m'as parlé. » Le maître d'équipage avait grommelé. « Tout de même, mon commandant, si elle allait vous conter des histoires qui ne sont pas, une brave femme peut-être, mais peut-être aussi autre chose. Sorcière qu'on la prétend. Oh, je sais qu'elle s'en défend, quoique dans le temps de ma jeunesse, elle m'ait annoncé des choses qui me sont arrivées, ma blessure par exemple. » Torhe Pen insista. « Qu'importe, ne t'inquiète pas. Je saurai bien démêler le faux du vrai, et puis, peut-être que la mémoire me reviendra sur ce temps du passé, sur mon enfance. Si grâce à elle cela se pouvait. » Il se toucha le front. « C'est bizarre. Depuis que tu m'as raconté cette histoire, c'est comme des éclaircies qui se font là-dedans, au milieu de ma nuit. Oh, je n'y vois pas encore très clair en moi. Il y a des trous, des brumes si épaisses que je m'y perds. Mais tout de même... ce Saint-Jean du Doigt, si j'y étais né, si je m'y étais trouvé enfant, cela me ferait comprendre, m'expliquerait bien des sensations que j'ai ressenties en m'y rendant pour la première fois avec toi, plus tard à d'autres visites que je suis venu y faire tout seul, attiré par quelque chose que je ne puis arriver à définir. Le murmure de la fontaine, sa décoration, le portail, des choses. Il parlait comme sous l'impression d'un rêve qui l'eût refait tout éveillé, essayer de reconstituer sans y parvenir les matériaux lui manquant pour le compléter. L'esprit moins affiné du maître d'équipage ne saisissait pas exactement le sens des paroles de son chef, dont la subtilité lui échappait, mais son dévouement le poussant toujours à se jeter entre lui et tout danger, toute peine possible, il s'écria « Au diable, commandant, je serai là, moi, entre la vieille et vous. Et si elle essaie de vous faire des ennuis, elle trouvera quelqu'un pour lui répondre. Je ne voudrais pas qu'à cause de moi, pour cette sotte idée que j'ai eue de la revoir, vous en ayez des désagréments. » Mais le jeune homme reprit. « C'est que, vois-tu, mon brave Lantoc, je voudrais précisément que tu ne sois pas de moitié dans la conversation que j'aurai avec elle. Si elle nous voit arriver de compagnie, cela pourrait la mettre sur la voie, la préparer, lui faire imaginer quelques mensonges. Et je tiens absolument à la surprendre, à lui arracher quelques cris qui me prouvent qu'elle n'invente pas. Elle ne me connaît pas, elle ne m'a jamais vu. Je serai pour elle l'étranger, l'inconnu. » Et à mi-voix, il ajouta, « Je verrai bien si elle est assez sorcière pour deviner ce que moi-même j'ignore. » L'Antoc gronda. « C'est que je ne veux pas qu'on touche ni à votre corps ni à votre cœur. Tout cela est un peu à moi. » « Rassure-toi, elle n'y touchera qu'autant que je lui permettrai, mon vieux camarade. Oui, cela t'appartient, mon corps que tu as sauvé, mon cœur que tu as conquis. Allons, en route, Ce que je désire et la raison qui m'a fait te choisir pour compagnon dans cette promenade que nous faisons là aujourd'hui, c'est d'abord que tu es comme mon père. Ensuite, que je ne désire pas traverser le bourg, éviter les amis et arriver le plus secrètement possible à la demeure de cette Tinaïque Cornou, et que j'ignore la route à prendre, n'en connaissant pas d'autre que celle qui traverse Plougasnou.
Bon, très facile par la falaise, répondit le maître.
Durant tout ce trajet, ils n'avaient échangé que des propos insignifiants. Lantoc, un peu inquiet de ce que celui qu'il considérait comme son enfant allait découvrir au bout de cette course. Thor et Pen, ayant l'impression de marcher vers sa destinée et redoutant, autant qu'ils le désiraient, ce qu'ils pouvaient apprendre. Avant qu'ils ne fussent trop en vue, obéissant à la demande de son compagnon, le maître d'équipage s'installa derrière quelques buissons qui ombrageaient les filets d'eau du Dounan, venant se perdre dans la montagne de galets bordant la plage.
« Un bon poste. Je vois tout et on ne m'aperçoit pas. De là, je vous verrai et je pourrai accourir au premier signe, » expliqua Lantoc,
et désignant la base de la falaise de droite,
« Tenez, ce creux de roche à tribord, c'est là qu'elle gîte. Elle doit y être car la porte est ouverte et je distingue une forme un peu en avant. »
Le corsaire rejeta.
« À tout à l'heure. »
Malgré l'émotion qui le serrait à la gorge, il marcha d'un pas ferme et décidé, et, au bout de quelques minutes, atteignit la demeure de la vieille femme. Assise sur une chaise devant sa porte, elle était immobile, appuyée sur son inséparable bâton, tête un peu baissée, semblait rêver et toute noyée de soleil. Elle rêvait tout haut, en effet, encore sous la suggestion de la visite que lui avait faite ce vieux marin qui était venu réveiller en elle le passé, marmottant des paroles à ce sujet. Subitement, elle releva la tête. Une ombre se dressait entre elle et les rayons déjà tièdes qui la réchauffaient. Les prunelles noires, traversant l'épaisseur des verres des lunettes, se heurtèrent aux prunelles glauques avivées de curiosité qui l'examinaient. Après un silence d'un moment, une sorte de tremblement la saisit. Une inquiétude passa dans les mille plis lourds de son visage, comme une rafale sur les vaguelettes serrées de la mer. Ses lèvres s'ouvrirent pour parler, et elle ne trouva pas une parole. Quel était-il donc celui-là qu'elle voyait pour la première fois, cette figure jeune et hardie aux belles lignes régulières, ce corps robuste et fin à la fois, aux épaules solides et surtout ses yeux, des prunelles où, sous l'assurance mâle du regard de l'homme, quelque chose subsistait de la candeur de l'enfant, quelque chose de déjà vu, de connu, perdu dans les brumes du passé. Prunelle d'enfant, mais de quel enfant? Sans un mot, lentement de ses deux mains, l'inconnu, déboutonnant sa veste et son gilet, écarta sa chemise et mit à nu sa poitrine, que baigna en plein la chaude et flambante lumière du soleil. D'un bond, l'octogénaire fut debout, les deux bras levés au ciel, ayant laissé tomber sa canne secouée d'un tremblement si violent qu'il la faisait chanceler sur ses vieilles jambes et criant « Toi, toi, c'est donc toi, mon fils, mon pauvre petit gars perdu en mer. Dieu aura permis cela, que je te revoie avant de mourir, depuis des temps et des temps que je t'espérais. Oh, c'est trop, trop de joie !» Elle allait tomber. Le jeune homme, à la fois stupéfait, épouvanté et ému d'une émotion terrible, la saisit dans ses bras pour l'aider à se ressaisir. Tinaïque Cornou sanglotait, appuyant sa tête sur la poitrine de Thor et Pen, balbutiant. « Mon cher petit, mon enfant à moi, mon petit, te revoir enfin, enfin. Car c'est toi, toi, je l'aurais reconnu entre mille, le signe. »
« Votre fils, moi ?»
Le corsaire s'attendrissait, étonné, ne s'attendant nullement à cette découverte.
« Votre fils, vous seriez... »
Elle ne l'écoutait pas, promenant la caresse de ses vieux doigts hésitants sur la cicatrice. « La voilà, je la retrouve bien, elle n'a pas changé. Le feu, la trace si nette du chenet. Il ne saurait y avoir deux marques semblables sur une poitrine. Et c'était toi qui étais celui d'autrefois, car je te devine... Tu es le commandant de ce penbase dont tous parlent ici, n'est-ce pas? Je me rappelle, le jeune capitaine, ce ne peut être que toi. » Ne pouvant croire ce qu'il entendait, le jeune homme se laissait faire, cherchant à retrouver dans ce vieux visage quelque chose qui réveilla sa tendresse filiale. Il murmura sans conviction. « Ma mère ?» Tinaïk s'exclama. « Ah, si ta pauvre mère vivait, quelle joie pour elle !» Ce fut comme si un poids eût été enlevé de la poitrine, car il avait éprouvé quelque chose de douloureux à penser que cette vieille femme de suspecte réputation, qu'on traitait de sorcière, pût être sa mère. Il questionna. « Morte ? Il y a longtemps ?»« Oh, alors ce n'est pas vous ?» Elle courba la tête. « Si, il y a longtemps, mon pauvre fille. Des années, encore des années. C'est comme ton père, la même année. Il y a... Mon père également ? Orphelin que tu es. Oh, complètement orphelin. Tu n'as plus que moi, mon petit Guy. Moi qui t'ai sauvé du feu comme ton matelot t'a sauvé de la mer. Tu vois, je sais tout. » Il passa la main sur son front avec une étrange sensation de réveil. « Guy ? Vous avez dit Guy ? Mon nom. » Il me semble en effet entendre loin, très loin, des voix qui prononcent ce nom, qui m'appellent ainsi. Mais ce n'est qu'un prénom. Je dois avoir un nom de famille, un nom du pays, de Saint-Jean-du-Doigt, n'est-ce pas ? La vieille fit un mouvement. « C'est vrai. Mais comment l'ignores-tu ? Ah oui, je me souviens. On m'a assuré qu'à la suite de ton terrible naufrage, tu avais perdu toute mémoire de ton passé d'enfant. Comme tu as dû souffrir. Tu as cependant un fier nom, un nom de seigneur d'autrefois, le plus beau du pays de Plougasnou, on peut le dire, puisque tu es un Guiznou. » Il recula de quelques pas, hagard, décomposé. « Ce n'est pas... Non, non, ce n'est pas... Vous ne voudriez pas dire que je sois moi le... de celui qui... près de la chapelle funéraire ?» Du geste, il désignait par-delà les arbres le cimetière de Saint-Jean-du-Doigt. Tinaïk Cornou, un peu plus calme, affirma. « Devant Dieu, je te jure, Guy Guiznou, que tu es le fils d'Antoine Guiznou. C'est moi qui t'ai tiré des flammes où tu allais périr. C'est moi qui ai soigné des mois et des mois la blessure de ta poitrine, cette blessure que tu portes là. Ah, la chère blessure, sans elle, jamais, jamais on n'aurait su. Jamais je ne t'aurais retrouvé. Malédiction, tu mens. Dis que tu mens, Tinaïk, et que tu as voulu m'éprouver. Moi, mon père, celui qui repose là, dans le coin fatal. Oh, c'est moi, moi alors qui suis le maudit. » Il était tombé à genoux devant elle, la tête appuyée sur les deux vieilles mains qui s'étaient tendues pour le recevoir à son tour, et dont la lente caresse passait sur son visage, essayant de ramener en lui le calme, l'apaisement. « Ne te lamente pas, mon petit Guy. Ne pleure ni sur lui ni sur toi. S'il a été coupable, il a expié cruellement. Nul ne saurait l'accuser. Mais toi encore moins. Je sais ce que tu as fait. Je t'admirais sans te connaître. Les exploits de Thor et Pen effacent le passé d'Antoine Guiznou. Alors comme ça, on t'avait raconté, on t'avait parlé dans le pays de ce qu'a pu faire autrefois le malheureux Antoine ?» Il sanglotait sans force, devenu aussi faible soudain que le petit enfant qu'il était autrefois, balbutiant. Oui, tout, cette histoire, sans que je sache exactement pourquoi, non pas tant par ce qu'elle racontait, mais par un sentiment instinctif de froissement, de blessure secrète, m'avait fait plus de mal qu'indigné ou révolté. Mon père, c'était de mon père qu'on me parlait, et je ne savais pas. Tinaïk continua. C'est un grand coupable, mais on a été bien dur, bien cruel pour lui. Peut-être l'heure de la pitié a-t-elle sonné pour le criminel qu'il fut. Il est mort, abandonné de tous, entre mes bras. Sa tombe même avait disparu. Un inconnu l'a fait sortir de l'oubli. Le jeune corsaire, les deux coudes appuyés aux genoux de la vieille femme, redressant sa figure bouleversée aux yeux rougis, avoua. « L'inconnu, c'est moi. »« Toi, mon fils ? Toi, mon pauvre gars ?» s'exclama-t-elle stupéfaite. Je ne connaissais pas encore son histoire. Machinalement, mon maître d'équipage et moi, en visitant le cimetière, par curiosité, nous avons voulu connaître le nom tracé sur la tombe ensevelie sous les herbes et dont on n'apercevait qu'un angle. Nous avons lu sans savoir
sans que ce nom d'Antoine Guisnou me représentât même un souvenir. Après seulement, quand je me suis informée dans le pays, on m'a mise au courant, racontée tout au long la sinistre histoire. Mon père, c'était mon père. Oh, Tinaïque, Tinaïque, pourquoi ne m'as-tu pas étouffée dès ma naissance? Pourquoi ne m'as-tu pas rejetée dans ce brasier d'où tu m'as tirée? Elle protesta. Que dis-tu, Guy? Et moi, je t'assure que c'est la rédemption qui commence, que c'est la volonté d'en haut qui a amené le pauvre petit malheureux perdu en mer à venir, sans le savoir, chercher, retrouver la pierre funèbre de son père, déjà rayée de la surface de la terre, et faire revivre le nom oublié pour le réhabiliter. Elle le fit relever, lui disant « Courage, mon fils, sois aussi vaillant contre la douleur que tu l'es contre l'ennemi. Porte le front haut. En vrai, guise-nous de la vieille race héroïque dont tu es le digne héritier. Tous s'inclineront devant toi, plus bas encore qu'auparavant, quand ils sauront que tu es un guise-nous. Ils ne diront pas que tu es le fils de celui-ci ou de celui-là. Ils salueront en toi le héros Thor et Pen. Et maintenant que je t'ai vu, que je t'ai retrouvé, je pourrai mourir en paix, heureuse, et bénissant le ciel de la joie suprême qu'il m'a donnée. » Le jeune homme l'avait enlacée de ses bras et baisait les joues ridées en disant « Vous êtes bonne, Tinaïque. Vos paroles m'ont fait du bien. Mais vous ne savez pas, vous ignorez. Non, non, je suis bien malheureux. J'avais fait un rêve, il est à jamais disparu avec le nom que je retrouve. » La vieille femme hocha la tête et indiquant le bourg au creux du vallon, « Ne désespère pas, je te le répète. Va au cimetière, sur la tombe de ton pauvre père, où je prie chaque jour. Vas-y le front haut, sans en rougir, car c'est toi qui rendras l'honneur et la gloire au nom du maudit. Si je ne me sentais pas si faible ce matin, après une telle émotion, je t'y accompagnerais. Va, mon petit, va, mon fils. Bon espoir. » Après une dernière étreinte à Tinaïque Cornou et l'engagement de venir la revoir aussi souvent qu'il le pourrait, Thor et Pen s'éloigna. Il sentait ses jambes vaciller sous lui. De loin, Lantoc avait assisté aux détails de cette entrevue. Il avait hâte de savoir ce qui s'était passé. Quand il aborda son chef, il fut stupéfait de sa physionomie tragique et sombre. « Que vous a-t-elle dit, mon commandant, la sorcière, pour que vous ayez cette figure de vent debout ?»« Ah, mon pauvre Lantoc, j'ai retrouvé ma famille. Je sais maintenant de quel nom on doit m'appeler. » « Que je suis content! Me v'là donc votre bon ange, Aster, puisque c'est grâce à moi que vous l'avez appris !» fit le marin joyeux. « Le diable, Lantoc! Le diable plus que jamais !»« Hein? C'est-il que la joie vous a troublé la raison ?» questionna le maître d'équipage interloqué, ne comprenant rien à cette colère subite. « Je vous rends une famille, vous savez votre nom !» Thor et Pen, lui saisissant le bras, le rapprocha pour une confidence que nul autre ne devait entendre. « Mon nom ? Ha 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 ! Guy Guisnou que je me nomme, né à Saint-Jean-du-Doigt, fils de celui. Tu te rappelles, au cimetière, la tombe abandonnée ?»« Tonnerre ! La tombe du maudit ? C'est votre père, vous êtes ?» Lantoc eut une révolte. « Non, non, vous êtes Thor et Pen, voilà tout ce que je sais, moi, et mon fils à moi, pas à d'autres, le petit que j'ai ramassé au large. » « Merci, mon vieux camarade, merci, mais je suis bien malheureux, car vois-tu, elle est perdue pour moi. »« Hein? Qui, elle ?»« Ah oui, la petite corvette? Eh bien, à mon idée, non. Je crois que vous la capturerez tout de même, foi de corsaire. » »« Allons, Lantoc, retourne là-bas. On y a besoin de toi. Moi, j'ai encore affaire ici. Il faut que j'aille prier pour lui, tu entends? Sur la tombe du maudit ?» « Vous avez raison, commandant. »« mon père, ah, de quel poids est votre nom ?» s'exclama le jeune homme. Après un dernier adieu à Lantoc, il s'enfonça dans le creux du vallon, se dirigeant vers Saint-Jean-du-Doigt.